L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Ah, je suis ravie. Bonjour et bienvenue dans ce LEM de rentrée déconfinée. Voilà déjà la cinquième saison de l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère pour de vrai, dans un studio tout nouveau, tout beau, avec de vrais gens et en particulier l'invité du jour que vous connaissez si vous écoutez fidèlement le LEM, que vous découvrirez avec plaisir si vous êtes arrivé récemment sur nos ondes. Quelle bonne idée. Aujourd'hui, c'est Valérie Boulch, juriste de l'association Consommation, Logement et Cadre de Ville, CLCV. Alors, des mots qui ont pris un sens un peu différent, peut-être depuis quelques temps. Consommer, oui, mais plus proche. Se loger, oui, surtout si on est contraint de rester chez soi. Le cadre de vie, ben, ça va avec aussi, n'est-ce pas ? L'association CLCV aide les consommateurs et les consommatrices qui sont aussi des citoyennes et citoyens. Elle propose aussi bien une défense classique contre les abus de certains marchands qu'une série de conseils pour justement consommer plus économique, plus écologique et plus citoyen. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Après la crise sanitaire, une crise économique se profile, paraît-il. Certains vont perdre leur emploi, d'autres sont déjà en difficulté, notamment ceux qui vivent de postes précaires, d'intérim, des auto-entrepreneurs aussi dont l'activité s'est interrompue pendant le confinement. Donc on s'est dit que pour cette émission de rentrée 2020, on pourrait se pencher sur le surendettement, même si oui, c'est pas forcément amusant, mais bon.
Jamais.
Est-ce qu'il y a une définition officielle, juridique, au surendettement ?
Oui, il y a une définition qui va être donnée par le Code de la consommation. C'est quand vous n'arrivez plus manifestement à faire face à l'ensemble de vos dettes, exigibles, échues ou à échoir, autres que professionnelles. Donc ça, c'est important. Ce sont bien des dettes personnelles. Vous pouvez être surendetté et bénéficier d'un plan de surendettement.
Mais pour être déclaré en surendettement, il faut évidemment faire, j'imagine, une procédure.
Alors, il y a une procédure, effectivement, il y a un dossier, en fait, hein, c'est un dossier CERFA. Donc, les CERFA, ce sont tous les documents administratifs qu'on peut facilement télécharger sur Internet ou aller récupérer aux succursales de la Banque de France. Hein. Vous pourrez avoir un dossier papier si vous ne vous débrouillez pas avec Internet et que vous n'avez pas accès à Internet.
Et si c'est sur Internet, ça serait sur quel site en particulier ?
Vous pouvez aller sur Service public, de toute façon, vous tapez dossier de surendettement ou CERFA et vous allez trouver facilement ce dossier-là. Donc, télécharger et à imprimer et qu'il va falloir effectivement compléter avec de nombreuses informations. Plus il est précis, plus mieux c'est, puisqu'il ne faut pas oublier de dettes, puisque ne sera concerné par le plan de surendettement que les dettes que vous aurez déclarées.
Et il y a des critères quand même, enfin, on ne va pas se déclarer en surendettement comme ça, juste parce qu'on en a envie.
Non. Alors nous, c'est vrai que quand les personnes viennent nous voir en permanence, alors des fois les gens viennent nous voir en disant « je suis surendettée » et d'autres personnes viennent nous dire « j'ai un petit problème avec mon fournisseur d'énergie, j'ai un petit problème avec un crédit ». Et on va détricoter, on va voir au fur et à mesure si effectivement la situation le nécessite ou pas. On va estimer, il me semble, que si vous avez des dettes et qu'elles ne sont pas, vous ne pouvez pas en 6 mensualités les résorber, on va considérer, c'est pas assez approximatif, mais on va pouvoir considérer qu'effectivement, vous êtes surendetté. Alors ça, c'est pour des personnes, je vais bien le dire, qui ont une capacité de remboursement. Alors, qu'est-ce qu'une capacité de remboursement ? Donc, une capacité de remboursement, pour schématiser un peu les choses simplement, on va prendre vos revenus, auxquels on va soustraire vos charges, et on va regarder si à la fin du compte, il reste quelque chose. S'il reste quelque chose, c'est-à-dire que vos revenus sont supérieurs à vos charges, c'est ce qu'on appelle une capacité de remboursement. Et de cette capacité de remboursement, on va mettre à côté vos dettes et on va voir si vous êtes capable ou non de les rembourser. Donc voilà. Donc comme je disais, si vous avez une capacité de remboursement et qu'en moins de 6 mensualités, vous êtes capable de pouvoir, avec un rééchelonnement, avec vos créanciers, de pouvoir faire face, il n'est peut-être pas nécessaire de faire un plan de surendettement. Si vous n'avez pas de capacité de remboursement et que la situation fait que vous avez quand même de nombreuses dettes qui ne vont pas être faciles, malgré des négociations que vous pouvez faire avec vos créanciers, de se résorber rapidement, vous êtes surendetté et ça vaut effectivement le coup pour sortir de cette situation de faire un dossier de surendettement.
Mais ce n'est pas forcément le nombre de dettes, le nombre de créanciers qu'on a. Ça
non, peut parce
être juste
que
la quantité,
vous pouvez. Alors, on va voir, hein, effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant. Il y a le surendettement actif et le surendettement passif. Surendettement actif, c'est ce qu'on voyait le plus il y a quelques années. C'est-à-dire un crédit, deux crédits, trois crédits.
Les crédits
plus.
À la consommation.
Parce que moi, ce que je voyais, c'était surtout ce qu'on appelle les crédits revolving. Parce qu'on voit un peu ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez une réserve d'argent. ça vous est donné assez facilement, vous pouvez l'avoir assez facilement et vous piochez. Mais vous piochez une fois, ça va. On sait à peu près, c'est un crédit classique. Voilà, j'ai emprunté tant, je rembourse tant pendant tant de temps. Le problème, c'est que en remboursant, vous recréez votre votre cagnotte, on va dire, et vous pouvez réemprunter. Et là, c'est un cercle infernal, surtout que c'est souvent à des taux qui sont quand même très élevés. Et on trouvait donc les gens disaient moi, j'ai pas pu m'acheter ça. Pourquoi les autres le font? Pourquoi je le fais pas? Et après tout, on vous offre, on voit dans tout, même les magazines télé, on voit plein de propositions de crédit de ce type-là.
Ça a
baissé. Oui, quand même. Je trouve que le recul qu'on peut avoir et la discussion que j'ai pu avoir avec mes collègues qui travaillent, donc qui sont spécialisés dans le surendettement, parce que nous, on a aussi la CLCV représente les usagers à la commission de surendettement. Donc, on a ce recul-là et les échanges qu'on peut avoir avec d'autres associations qui pratiquent. Le nombre de dossiers où les crédits sont très, très importants existe toujours, mais est moindre. Et maintenant, on se trouve plus effectivement dans un surendettement passif où les gens, sans faire de crédit ou autre, n'arrivent plus simplement avec leurs revenus à faire face à leurs dettes.
Ah oui, donc c'est vraiment
c'est plus difficile parce que là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Donc, c'est des problèmes souvent liés, à des loyers trop élevés. Enfin, vous avez analysé un peu les causes de ces...
Voilà. Alors après, il y a des incidents de la vie qui font des choses aussi. Une séparation, un licenciement, une maladie. Il y a plein de choses qui font que tout d'un coup, les revenus qui suffisaient à un moment donné à faire face aux charges ne suffisent plus. Donc, effectivement, à ce moment-là, ça devient un peu catastrophique parce que même avec toute la bonne volonté du monde et la bonne foi, puisqu'on va revenir à ça, cette notion de bonne foi, quand vous déposez un plan de surendettement, enfin, vous déposez pas un plan de surendettement, vous déposez un dossier de surendettement, va être importante. Il faut qu'effectivement, le dossier soit de bonne foi, que vous soyez réellement surendetté et qu'effectivement, ce ne soit pas des dettes professionnelles. Voilà les critères qui vont servir de base à la mise en place d'un plan de surendettement ou d'une procédure de rétablissement personnel dont on va certainement parler.
Ah oui, alors donc admettons qu'on soit vraiment en situation de surendettement, donc on remplit ce fameux CERFA en ligne ou directement, enfin en papier.
Alors soit sans papier, soit en ligne. On ne le remplit pas en ligne, on télécharge et on le remplit sur papier de toute façon. Ah. Et après, il faudra le déposer donc, à une succursale en fait, de la Banque de France, donc il y en a une à Quimper, peut-être à Brest aussi. Donc voilà, là on peut le déposer et après, effectivement, le dossier déposé, vous allez recevoir après ce qu'on appelle une recevabilité ou une irrecevabilité. Qu'il est possible de contester si effectivement dans les 15 jours de la notification, je parle bien sûr de l'irrecevabilité, pour essayer d'argumenter et dire qu'effectivement le dossier doit être recevable.
Il y a des pièces à déposer en même temps que le CERFA ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de pièces à déposer. On va vos revenus, ça peut être des bulletins de salaire, justificatifs de domicile. Et après, ça va être tous les documents. En fait, vous allez avoir une liste de vos dettes. Vous allez devoir marquer vos charges et aussi une liste de vos dettes. Donc là, il faudra fournir les documents que vous pouvez avoir sur les crédits et notamment les courriers que vous avez reçus pour les impayés. Ce qui permet de pouvoir à la commission de surendettement après d'en informer les créanciers pour qu'à leur tour, ils puissent dire non, c'est cette somme-là qu'ils me doivent et non pas cette somme-là. Il y a une vérification des sommes et après, une contestation peut être possible.
Pour remplir ce dossier, c'est intéressant de faire appel à une association.
Soit vous en sentez capable et c'est tout à fait à la portée de quelqu'un qui a l'habitude de gérer des dossiers administratifs. Sauf que souvent, quand on se retrouve dans cette situation-là, on est un petit peu paniqué, on ne sait plus comment faire. Donc c'est vrai qu'une aide peut être apportée et les associations telles que la nôtre, la CLCV ou vous en avez d'autres qui sont spécialisées dans le surendettement, peut être intéressant et je pense vous aider. On peut déjà, c'est arrivé à synthétiser et vous aider à rechercher les documents. Est-ce que vous avez pensé à ceci ? Est-ce que vous n'avez pas telle dette ? Parce que les gens ont des dettes en tête, ou par exemple une personne qui s'est portée caution, il faut le noter tout ça. Donc il ne faut pas passer à côté de quelque chose, puisque la commission ou la Banque de France va en fait se positionner pour faire un plan de surendettement sur ce que vous avez déclaré. C'est du déclaratif. Vérifiez après auprès des créanciers qui vont donner eux les sommes que vous leur devez. Donc, il est important de tout mettre et pas passer à côté.
Donc, en 15 jours, c'est 15 jours, vraiment.
Jours, c'est la demande. Alors, quand je vous dis, c'est vous avez 15 jours pour contester après avoir reçu la notification, soit de recevabilité, mais là, il n'y a pas de raison de contester.
On la reçoit en combien de temps, cette notification?
Les délais là-dessus, je ne sais pas. Je pense que c'est en fonction. La recevabilité, ça peut être assez rapide, mais je ne crois pas qu'il y ait de délai. Alors là, je ne suis pas plus la spécialiste officielle là-dessus. Mais en tout cas, sachez que quand vous recevez cette notification de recevabilité, il y a un délai de 15 jours pour pouvoir pouvoir la contester. C'est plus l'irrecevabilité, je précise bien, qui va être contestée.
Bien sûr. Et la recevabilité ou l'irrecevabilité, c'est quelqu'un décide à la Banque de France, c'est pas une commission là, qui va décider.
Alors, en fait, tous les dossiers ne passent pas en commission.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est les dossiers qui vont poser plus sous question ou soucis qui vont passer devant la commission. Sinon, il y a les services de la Banque de France qui, au regard de la situation qui est présentée, s'il n'y a pas de contestation, on ne pense pas qu'il peut y avoir de contestation, les dossiers, la recevabilité va être décidée par la Banque de France.
Alors si c'est recevable, que se passe-t-il ?
La recevabilité a son importance parce que notamment si vous êtes, on va dire victime, ça, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais s'il y a des procédures de saisie, alors s'il y a eu des jugements, si les procédures d'expulsion par exemple qui peuvent être en cours, la recevabilité va mettre un terme à tout ça, c'est-à-dire que va suspendre, dès que vous avez la notification de la recevabilité, ça va suspendre toute possibilité de faire des procédures de saisie et ça va suspendre toutes les procédures déjà en cours. Pareil pour une expulsion. Si vous devez être expulsé et que votre dossier relève du surendettement, il peut être important pour bloquer cette procédure de faire un dossier de surendettement. Mais faut-il que ça le justifie, hein ? L'expulsion n'est pas toujours liée à des impayés.
Bien sûr. Et alors bon, on est la procédure, on est reçu. Oui. Qu'est-ce qui se passe ?
On n'est pas forcément reçu, hein. Ce n'est pas une obligation. Le dossier, après, on vous donne cette recevabilité et après, il y a des mesures qui vont être proposées.
Alors
on va avoir aussi deux choses différentes. Je parlais tout à l'heure de capacité de remboursement. Selon qu'il y ait une capacité de remboursement ou non, la procédure proposée ne va pas être la même. Le principe, c'est de vous proposer un plan, donc un échelonnement de vos dettes par palier, ou un moratoire, c'est-à-dire qu'on va geler certaines dettes et pas d'autres, de manière à vous dire, voilà, premier palier, vous allez payer cette dette pendant tant de temps avec telle mensualité. Parce que quand vous aurez payé celle-là, ça sera un autre palier, ainsi de suite. Donc ça, c'est une possibilité. Vous avez aussi ce qu'on appelle des moratoires, donc de geler des dettes. Pendant un an, deux ans, on peut se dire, voilà, votre situation est telle actuellement que, c'est pas possible. Donc, les dettes, on va les geler. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas payer les échéances qui sont en cours, mais on ne va pas vous réclamer le paiement des échéances qui n'ont pas été payées pendant cette période-là. De manière à vous dire qu'au-delà de cette période-là, on va revoir votre situation. Et si vous êtes revenu, on va dire, entre guillemets, à meilleure fortune, l'expression n'est pas toujours idéale, mais c'est ce qui est utilisé. On puisse vous proposer un échelonnement et un plan de surendettement pour vous permettre de payer ces dettes-là. Ou soit, il n'y a pas de capacité de remboursement et on pourrait être amené effectivement à passer par la procédure de rétablissement personnel dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce que donc ?
Alors, tout le monde connaît, je pense, ou a entendu parler de la liquidation judiciaire quand il y a une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'existe plus, puis il y a un effacement des dettes, on arrête. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une liquidation judiciaire pour les particuliers. C'est-à-dire que la situation n'a pas vocation à s'améliorer. Compte tenu du fait que vos revenus sont déjà insuffisants par rapport à vos charges, il y a si à moins de tout d'un coup de gagner au loto ou effectivement de trouver un autre emploi où vous allez être payé deux fois plus, vous n'arriverez malheureusement pas à faire face à des charges qui sont les charges de tout le monde en fait. Donc là, on se dit que la situation est irrémédiable et on peut passer à cet effacement des dettes, donc à cette procédure de rétablissement personnel qui va tout effacer et remettre les choses à zéro.
C'est ça qu'on appelle la faillite personnelle, faillite personnelle.
C'est ça. En fait, la faillite personnelle, il me semble qu'en fait, c'était en Alsace, dans le département du Haut-Rhin. Ça avait été mis en place au départ, qu'il y avait une procédure un peu spécifique et effectivement, depuis quelques années, je ne sais plus combien de temps maintenant, cette procédure de rétablissement personnel a été mise en place pour l'ensemble du territoire français et effectivement permet à des personnes de sortir un petit peu d'une situation compliquée et qui sans ça se retrouveraient à la rue, quoi.
Et les personnes qui sont en rétablissement personnel, c'est ça ? Elles sont suivies ensuite est-ce qu'il y a une obligation de suivi
Souvent, il y a un fichage, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on... Alors, je vais encore parler
on a accès
des
à la
cibles,
banque quand même après.
Le fichier FICP, fichier des incidents de paiement au crédit aux particuliers, en fait, qui est un fichier qui est consultable par chaque banque. Alors, pour l'instant, c'est un fichier qui est ce qu'on appelle passif. Pas passif.
Si la banque n'y va pas, en gros.
Négatif, pas positif, négatif. Ouais. C'est-à-dire qu'un ce fichier permet à une banque de voir si une personne a fait un crédit et s'il y a eu des impayés. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire un crédit dans une banque, la première chose que la banque va faire, c'est d'aller voir sur ce petit fichier FICP et de regarder si vous avez déjà eu des incidents de paiement.
Ah oui, ils le font vraiment.
Ah, ouais. Ils le font, ouais. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bon. C'est un fichier qui leur permet, de... parce qu'en fait, ils prennent toujours un risque en faisant un crédit. Donc, effectivement, ils vont aller voir ce fichier FICP et regarder si une personne a déjà fait des crédits. Alors ça, si tu as déjà fait des crédits, s'il n'y a pas eu d'impayé, il n'y a pas de souci, ça n'apparaîtra pas. Si par contre, effectivement, il y a eu un crédit et qu'il y a eu des impayés, ça va apparaître. Donc effectivement, ça va, le principe du fichage du FICP jusqu'à 5 ans, hein, si vous avez un plan de surendettement, c'est de ne pas vous permettre de faire d'autres crédits pour ne pas retomber dans la même spirale. Maintenant, si pendant votre plan de surendettement, parce que ça peut arriver aussi, votre voiture tombe en panne, et comment faire pour aller travailler ? Parce que si on veut garder les revenus pour pouvoir payer les charges, voilà. Donc, il est possible de contacter la Banque de France, d'expliquer cette nouvelle situation et de demander une autorisation spécifique pour éventuellement faire un crédit. Et alors ça sera des crédits limités, hein, ça va être 3 000, 5 000 euros, je pense, grand maximum, mais qui permettra aux particuliers de pouvoir obtenir éventuellement un crédit ou un microcrédit pour pouvoir acheter une voiture.
Et en cas de plan de surendettement, où là on peut rembourser une partie des dettes, oui. Est-ce qu'il y a des dettes qui sont prioritaires à rembourser en général ? Comment ça se passe ?
Alors déjà d'une part, c'est qu'une fois que vous avez déposé votre plan de surendettement, qu'il y a une recevabilité, il ne faut pas privilégier un créancier par rapport à l'autre. Donc, vous arrêtez de, vous n'allez pas dire, j'ai un petit peu de sous quand même, là, je vais payer celui-là. Non, il ne faut pas privilégier. Avant le plan de surendettement, si vous avez plusieurs dettes, on va dire que la dette à privilégier au possible, c'est le logement. La plus importante, ça va être ça. Mais après, dès que la recevabilité est déclarée, vous attendez d'avoir le plan, la proposition, les recommandations qui vont être faites par la commission de surendettement pour savoir qui vous allez devoir payer.
Et en général, puisque la CLCV est dans les commissions, donc qui est-ce qui est dans les commissions de surendettement, justement ?
À ma connaissance, parce que je n'y ai jamais assisté, mais donc effectivement des représentants des usagers, dont la CLCV donc, fait partie et représente les usagers à la commission de surendettement du département. Vous avez les banques, il doit avoir la CAF, les bailleurs, c'est à peu près, un ensemble, et puis des représentants administratifs, effectivement, de l'État. Après, le nombre exact et les personnes qui siègent à la commission,
je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail.
Mais déjà, les banques, les représentants des usagers, je pense effectivement les organismes sociaux et des représentants, effectivement, de l'État.
Et dans les
la préfecture.
Et dans les faits, ce sont donc plutôt les loyers qui sont... c'est les problèmes plutôt de paiement de loyer qui
Non, non, pas forcément. Mais ce qu'on dit, c'est effectivement que quand vous êtes endetté ou que vous avez plusieurs dettes, la priorité qui va être faite est... priorité à donner, effectivement, c'est le loyer, parce que c'est là où on vit, c'est d'essayer au maximum, Après, ça peut être l'énergie aussi, de ne pas être coupé en, au niveau électricité ou gaz, Mais si on doit faire des priorités, parce que malheureusement, on a des choix à faire dans ces situations-là, je pense que c'est ça.
Qu'est-ce qui peut, j'imagine que ça ne fonctionne pas toujours, un plan de redressement ?
Qu'est-ce qui peut faire échouer, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas le plan qu'on vous propose. Donc là,
Au nom de quoi en fait
Au nom de quoi vous estimez que c'est trop élevé, c'est pas le courant, hein, honnêtement, parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, il y a rien.
Et puis on doit se débrouiller
dans la même situation. Ouais, voilà, donc effectivement, la solution, elle est trouvée quand même. Vaut mieux passer par là. Alors c'est sûr qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'ils vont étudier votre budget. Alors quand je vous disais tout à l'heure, la capacité de remboursement, on la regarde. Effectivement, on va enlever des charges à vos revenus. Alors, sur le principe, c'est de la totalité des charges, mais sauf erreur de ma part, le département, en fait, il y a un forfait qui est établi entre la nourriture, l'essence, le téléphone ou autre, qui est de 750 euros par mois par personne. Voilà. Qu'on va enlever et on voit après de vos revenus...
Ce qui reste.
Voilà. Voir ce qui reste. Maintenant, dans vos revenus, c'est important de dire, j'ai un salaire, mais c'est aussi, par exemple, j'ai une pension alimentaire, il faut le mettre, c'est un revenu. J'ai des allocations.
Ça va être un
revenu aussi. Voilà. Donc, il faut bien tout mettre pour que la Banque de France ait l'ensemble de vos dettes aussi. Parce que de dire, je n'ai pas mis toutes mes dettes, mais eux, ils vont regarder, il y a une capacité de remboursement, on va mettre en place un plan qui va se baser, il y a une capacité de remboursement, telle dette. Si vous ne mettez pas toutes vos dettes et que vous continuez à rembourser une autre à côté, honnêtement, la Banque de France va vous faire un budget ric-rac. C'est limite, il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Donc, si vous avez omis une dette, ça risque de poser souci. Dans ce cas-là, il faudra redéposer un dossier de surendettement. C'est votre bonne foi qui va être un petit peu, comment dire, éventuellement mise à mal. Sauf que si vous êtes de bonne foi, vous avez oublié une dette, vaudra mieux revenir dessus et redéposer un dossier de surendettement.
Ah oui, on examine la bonne foi du
c'est
demandeur.
C'est un des critères, en fait. Il faut être manifestement surendetté, que les dettes soient personnelles, pas professionnelles. Ah, ça, c'est très important. Aussi. Et que, vous soyez de bonne foi. Ce sont les critères de recevabilité d'un plan de surendettement.
Mais c'est pas avec les auto-entrepreneurs, enfin les micro-entrepreneurs qui se multiplient, c'est pas un peu un problème cette distinction?
Alors le problème, c'est que là, dans ce cas-là, on va dire qu'il faut ramener, à des procédures qui existent aussi. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de la liquidation judiciaire pour une entreprise. Ben, faudra aller peut-être voir au tribunal de commerce ou autre si une autre procédure n'est pas applicable pour vous aider à faire face à vos dettes, si ce sont des dettes professionnelles.
Et il peut y avoir des créanciers qui refusent un plan de redressement.
Ils peuvent le contester. Donc, dans un premier temps, ils peuvent contester. Donc après, l'argumentation, là aussi, je pense que les dossiers peuvent passer véritablement en commission et ne sont pas traités administrativement. Il y a possibilité de contester. Et après, s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé, la commission peut passer par des mesures imposées et donc décider de ce qui va être fait.
Voilà. Est-ce qu'il est conseillé de prendre un avocat une fois qu'on est en procédure de...
Alors, conseiller, moi je dirais que non. Alors d'une part, c'est pas obligatoire. Donc déjà, ça c'est important. Je ne pense pas que d'aller... Alors vous pouvez le faire, hein, c'est pas interdit. Honnêtement, je pense pas que ça n'apporte pas grand-chose à ce niveau-là. Vaut mieux voir effectivement avec des associations pour vous aider à monter le dossier qu'un avocat qui va... Bah, le plus hors du temps, les avocats, c'est des dossiers parmi tant d'autres. Hein, donc... vous connaîtrez mieux votre dossier, vous serez plus à même de le défendre. De toute façon, il n'y a pas forcément de procédure orale. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt de voir un avocat. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas obligatoire.
Et est-ce qu'il est arrivé que des personnes passent plusieurs fois en commission de surendettement?
Oui, ça arrive. Sur le principe, ce n'est pas illimité. Le problème va être de la bonne foi. C'est-à-dire que normalement, quand vous faites un plan de surendettement, vous ne pouvez pas faire de crédit, puisque j'ai parlé d'un fichage pendant 5 ans au FICP. Donc, sur le principe, si ce n'est pas par des crédits, mais que votre situation, malheureusement, on vous a... Qu'est-ce qui se passe? Vous déclarez vos dettes à un moment donné, on vous les gèle ou on les efface, mais qu'est-ce que vous faites? Vos revenus sont toujours les mêmes, vos charges sont toujours les mêmes. Donc, il suffit d'un petit incident et voilà, c'est reparti. Donc oui, sur le principe, on peut...
Et dans ces cas-là, on refait un dossier.
On refait un dossier.
Il n'y a pas une procédure qui pourrait être intermédiaire?
Non,
d'accord, du style révision du plan de surendettement.
Si au bout de... vous avez eu un moratoire, un gel des dettes pendant un an, deux ans, il va falloir redéposer un dossier pour pouvoir que votre dossier soit réexaminé.
Parce qu'un plan de surendettement, ça dure combien de temps à peu près?
Alors je crois que normalement, c'est... Alors moi je vous dis, je ne suis pas la spécialiste à la CLCV, mais je crois que c'est 7 ans maximum, voire plus.
Ah, ça peut être long.
Ça peut être plus long si, je crois qu'il y a un crédit immobilier de manière à permettre à garder la maison, ça peut être plus long. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, il me semble. Mais là, j'avoue que c'est sous réserve, puisque je vous dis, je connais le domaine, je peux traiter, moi, dans le cadre de mes permanences, que j'assure, moi, les permanences consommation. Moi, j'arrive à déterminer si la situation relève du surendettement. Si les personnes ont déjà leur dossier déjà préétabli, je peux les aider à suivre. Mais c'est vrai que j'invite autrement à aller voir, si c'est pour la CLCV, aller voir mes collègues donc à Quimper ou à Brest, donc vous les contactez, vous prenez rendez-vous et ils vous aideront à monter votre dossier. Mais il me semble que c'est ça. Ça doit être 7 ans, normalement, sur le principe, c'est 7 ans maximum, voire plus, s'il y a un crédit immobilier. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous de 7 ans. Hein, c'est
fonction
de la
bien
situation,
sûr, oui.
Mais je crois que c'est ça.
Oui, c'est déjà long, 7 ans. Enfin, ça permet peut-être de se refaire.
Quand
même,
vous avez des dettes qui peuvent être importantes, quand vous avez plusieurs crédits, la situation fait que, ça peut prendre du temps. Et ça permet d'étaler aussi.
Oui.
Et puis après, on a des moratoires. Donc, il y a des dettes qui ne sont pas réglées non plus les premières années. Si on a le moratoire, qu'on revient, on a la situation s'est améliorée, on a une capacité de remboursement, on va repartir sur des paliers pour rembourser telle dette d'abord, telle autre après. Ça peut être un effacement aussi si la situation ne s'est pas améliorée.
Peut y avoir un effacement dans le plan de redressement.
C'est-à-dire que vous avez eu un moratoire. On fait ça dans l'attente que cette année ou ces deux années vous permettent de revenir à meilleure fortune, comme je disais tout à l'heure. Si la situation ne s'est pas améliorée et qu'elle n'a pas vocation à s'améliorer, on devrait pouvoir aller effectivement sur un plan, sur un redressement.
Bon, avec tous ces conseils, on est déjà mieux parti. On va essayer quand même d'éviter le sur endettement.
Peut-être petite ouais. chose, si on a deux minutes.
Oui, bien sûr.
C'est de dire que peut-être avant de voir un plan de surendettement, c'est d'essayer effectivement de voir s'il n'y a pas des aides possibles. Si par exemple vous n'avez qu'un seul crédit, il est possible de saisir le tribunal pour demander à ce qu'on appelle un délai de grâce. Le juge peut statuer et vous suspendre les paiements en fait pendant 2 ans. Ça peut permettre, quand on n'a qu'un crédit, de pouvoir être un peu soulagé. Donc il y a cette possibilité-là. Vous allez voir, taper délai de grâce sur le servicepublic.fr. Vous allez trouver effectivement les informations concernant cela. Ça peut être aussi de voir avec votre banque ou de voir avec votre propriétaire s'il n'y a pas des échéanciers qui peuvent être mis en place. Donc, il faut déjà tout tester peut-être s'il y a des possibilités avant de passer à un plan de surendettement qui est quand même, c'est une solution, mais c'est lourd. S'il y a une possibilité de faire autrement, si les dettes ne sont pas trop, trop importantes, il faut essayer comme ça.
Et donc suivre les bons conseils de l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qu'on retrouvera comme la dernière saison du LEM, une fois par trimestre, pour d'autres sujets. Merci Valérie.